Bonjour Nedjib Sidi Moussa.
Bonjour.
Alors vous publiez Le Remplaçant, journal d'un professeur précaire de banlieue. Pourquoi tenir un journal? Pourquoi ce besoin de consigner votre quotidien?
Après être entré dans la profession il y a bientôt 3 ans, donc c'était en quelque sorte pour moi un retour au collège. Et j'ai été frappé par plusieurs aspects que j'ai commencé à raconter à mon entourage à travers des anecdotes, mon ressenti, mon vécu, mon quotidien. Et ça suscitait souvent la surprise sur ce qui se passait justement dans les classes une fois que la porte est fermée et chacun comparait ou évaluait avec sa propre expérience et mesurait aussi tout ce qui avait changé ou tout ce qui était différent, puisque j'exerce en particulier depuis ces dernières années en milieu d'éducation prioritaire, comme on le dit, en banlieue parisienne, dans des quartiers de relégation sociale, et donc avec toutes les problématiques précisément que ça comporte, mais aussi toutes les joies, toutes les surprises et tous les espoirs également que ça suscite au quotidien.
Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre journal, c'est qu'il y a un corps à corps avec les élèves, des élèves de collège. On est au plus près. En quelques mots, c'est quoi une classe, Nedjib Sidi Moussa?
Eh bien, une classe, ça va être en milieu d'éducation prioritaire, 25 élèves qui peuvent être en 6e, donc sortis de l'école primaire, avec une stature, un accoutrement, une manière de parler reconnaissable entre tous. Ça va être des élèves qui sont en 3e, adolescents, qui se projettent déjà dans le lycée, qui ont d'autres problématiques, d'autres préoccupations, qui ont un autre gabarit, qui ont un autre humour ou une autre énergie. Et c'est de la vie.
Vous avez le sourire, ils vous font du bien,
bien
les
sûr.
Élèves.
Mais c'est grâce à eux, en fait, qu'on tient, même dans les conditions les plus difficiles. C'est pour eux qu'on fait ce travail, même si nous ne sommes pas considérés par la hiérarchie, par le ministère et même par des segments entiers de la société. C'est pour eux. Il y a un minimum d'engagement, il y a un minimum de conviction et aussi une certaine lucidité.
C'est grâce à eux qu'on tient, parce que le métier est difficile et d'autant plus difficile quand on est un professeur contractuel, ce que vous êtes.
Tout à fait. Je fais partie des 8% et quelques d'enseignants contractuels donc, qui signent chaque année un CDD et qui attendent leur affectation. Et qui peuvent être sur un ou deux établissements, qui peuvent faire des remplacements de courte, de moyenne ou de longue durée, et qui prennent le train en marche. Voilà, c'est-à-dire ce sont ceux qu'on ne va pas voir sur la photo d'entrée, ceux qu'on ne va pas tout de suite identifier dans un premier temps, ceux qu'on va confondre avec un prof de techno ou autre. Donc effectivement, mais cette précarisation qui a augmenté, qui s'est accentuée au cours des dernières années, elle s'explique précisément parce que le métier est devenu moins attractif pour les jeunes diplômés, en raison du salaire, en raison des conditions de travail, c'est important de le rappeler, mais c'est à l'image de ce qui se joue dans tous les autres secteurs du service public, information, santé, transport, etc.
Vous disiez qu'une classe, c'est un petit monde qui bouge, et vous dites, dans chaque classe, il y a une forte tête, un élément perturbateur, un casse-pied. On a forcément envie de vous interroger sur ce qu'assène le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Nous devons remettre le respect de l'autorité au cœur de l'école. Vous n'êtes pas un enseignant autoritaire.
Ah non, je crois que ça doit se comprendre, ça va finir par se comprendre. Oui, effectivement, il y a tout un discours sur la discipline, mais qui est un peu martial. Et j'ai l'impression, hein, notamment depuis la mort du jeune Nahel Merzouk, puis les émeutes qu'il y a eu un peu dans toute la France, il y a un discours gouvernemental qui consiste à durcir l'école, à faire jouer aux professeurs un rôle qui, à mon sens, n'est pas le leur. Moi, je ne jouerai pas ce rôle-là, en tout cas, et qui consistera à mettre au pas la jeunesse, à mettre au pas ses enfants, ses préadolescents, ses adolescents. C'est pas ce qui convient de faire. La question de la discipline, de l'autorité, c'est vrai, elle rencontre un certain écho, non seulement dans la société, mais aussi dans certaines catégories, chez certains segments de la profession. Je ne me reconnais pas là-dedans. Je pense qu'on doit plutôt faire preuve de bienveillance, d'égard. La question qu'il faudrait se poser plutôt, c'est comment on accueille ces enfants? Comment est-ce qu'on traite ces usagers du service public? L'école publique, c'est le service public, c'est l'école de tous, en théorie. Et c'est notamment dans certains endroits, ceux dans lesquels j'ai été nommé, c'est l'école des plus pauvres, c'est l'école de ceux qui viennent d'arriver en France. Donc c'est plutôt cette question qu'on devrait se poser. Comment est-ce qu'on accueille les enfants d'ouvriers, les enfants d'employés, les enfants d'immigrés? Comment est-ce qu'on les accueille? Comment est-ce qu'on les forme? Qu'est-ce qu'on veut faire d'eux dans la société française de demain?
Vous le disiez, Nedjib Sidi Moussa, vous enseignez en banlieue, en réseau d'éducation prioritaire. Quel est le profil de vos élèves?
Eh bien, mes élèves, pour la plupart, viennent d'un milieu modeste. Ils n'en ont pas toujours forcément conscience, mais ils viennent d'un milieu modeste. Ils ont des parents qui travaillent pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, qui ont des horaires décalés. Beaucoup de mes élèves, la grande majorité, ont des parents ou des grands-parents qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. La plupart de mes élèves, sans qu'on leur demande, et vous avez compris que je ne suis pas du genre à leur demander, affichent ou affirment une appartenance à la communauté musulmane. Voilà, c'est un fait, c'est un fait social, c'est un fait culturel, c'est un fait religieux. Et voilà à peu près le profil de mes élèves. Ce que j'ai également constaté, mais là aussi c'est le retour de mes élèves, je n'ai pas fait d'enquête sociologique, qu'on soit bien clair, mon livre n'est pas non plus une enquête, c'est pas une immersion, c'est mon métier et c'est ma pratique et mon expérience que j'essaie de retranscrire. J'ai remarqué aussi que beaucoup de mes élèves sont issus de familles monoparentales, ne voient pas souvent précisément leurs deux parents, ne connaissent pas toujours leurs parents, notamment le père.
Alors, vous vous appelez Nedjib Sidi Moussa, et ça éveille la curiosité des élèves. Il y a de magnifiques passages dans le livre là-dessus. Par exemple, « Monsieur, vous avez des airs algériens. D'où vous parlez, Nedjib Sidi Moussa ? On entend l'histoire de votre famille et de votre enfance. »
Ah, d'où je parle ? Alors, quand je parle à mes élèves, je parle de nulle part. Je parle de mon statut d'enseignant, je peux parler de mon parcours, de ce que j'ai fait auparavant. Je peux parler un peu de mes publications, mais pas plus que ça. Mais pour mes élèves, la réponse qui est un peu devenue un jeu pour moi, c'est « je n'ai pas d'origine ». Je n'ai pas d'origine, voilà, tout simplement. Évidemment.
Mais ça les intrigue.
Bien sûr.
Ils vous interpellent souvent.
Mais pourquoi est-ce qu'ils m'interpellent? Alors déjà, il y a deux choses. C'est qu'en règle générale, en majorité plutôt, pour parler correctement, la profession est féminine. Donc ils ont moins de chances d'avoir un professeur homme en face d'eux. Et puis, ils vont avoir moins de chances de tomber sur un professeur qui porte un nom comme le mien. Donc ça interpelle, ça intéresse, d'autant que cela peut faire écho, selon leur représentation, avec leur propre histoire familiale et migratoire. Et en règle générale, quand ils me posent la question « Monsieur, vous êtes de quelle origine ?», c'est pour me parler d'eux. Pour me parler de leur histoire. Et pour savoir aussi, est-ce qu'ils ont leur place dans cette société ? Tout simplement. Et c'est pour ça, moi, je suis en colère quand j'entends le discours de certains politiciens à l'égard de la jeunesse. En fait, on a l'impression qu'ils oublient qu'eux-mêmes ont été jeunes. Mais aussi, ils parlent de cette jeunesse populaire, de cette jeunesse d'origine extra-européenne, comme on peut le dire. Il y a de la méchanceté, il y a du cynisme et de la cruauté. En fait, ils en parlent comme si ce n'était pas leurs enfants, comme si ce n'était pas des enfants de cette société. Alors qu'en fait, mes élèves sont les enfants de cette société. Ils sont les élèves de la société française du 21e siècle, avec toutes les qualités, avec tous les défauts.
Vous vous adressez, vous dites, au prolétariat immigré. Alors, à un moment où l'abaya mobilise toute l'attention, un mot sur la laïcité à l'école. Vous le disiez, une majorité d'élèves et de religion musulmane.
Oui. Mais là encore, on peut parler de tout, mais il faut dédramatiser en fait et sortir un peu des obsessions entretenues par certains secteurs médiatico-politiques. Mes élèves présentent plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, ce sont des enfants d'ouvriers, d'employés, de classe, de milieux modestes. Première chose. Deuxième chose, comme je le disais un peu tout à l'heure, ce sont des jeunes, des enfants de l'immigration extra-européenne, africaine, maghrébine, dans leur grande majorité. Troisième chose, effectivement, et ils ne s'en cachent pas, ils ont plutôt tendance à en parler, très librement, sachant que je ne les interroge jamais là-dessus, ils ont comme caractéristique, dans leur grande majorité, pas dans leur exclusivité, mais dans leur grande majorité, ils ont la caractéristique d'être musulmans, voilà, comme leurs parents. Donc, effectivement, il y a des obsessions dans la société actuellement autour du fait religieux, musulman en particulier. On a vu qu'il y a une controverse qui est née récemment avec des déclarations, notamment ministérielles, au sujet de l'abaya, dont on peut dire plein de choses. Mais ce que je tiens en revanche à souligner ou à préciser, c'est que moi je n'ai pas eu de problème avec mes élèves en raison de leur confession. Ils n'ont jamais émis de protestation, ils ne se sont jamais opposés à un enseignement, qu'il s'agisse de la Shoah, qu'il s'agisse de l'éducation entre les hommes et les femmes, qu'il s'agisse de la question de l'homophobie. Et donc, je pense qu'il faut aussi sortir de certains fantasmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans certains établissements, je dis simplement que je ne les ai pas rencontrés, pas sous cette forme-là. Et je crois que ça tient aussi beaucoup à la manière dont on respecte ou pas les élèves, de la manière dont on les considère. Est-ce qu'ils sont partie prenante d'un groupe ou pas? Est-ce qu'ils sont capables d'émettre un jugement? Est-ce qu'ils sont capables d'émettre des réflexions? Et à partir de là, je pense que le dialogue est possible. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'ils émettent des réserves ou pas, et on peut les faire progresser, parce que c'est ça le plus important.
Merci beaucoup, Nedjib Sidi Moussa. Je rappelle que votre livre, Le remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue, un ouvrage très bien écrit, profond, drôle aussi, hein, il y a beaucoup d'humour. Cet ouvrage est publié aux éditions L'Échappée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.